Le premier de ceux qui explorèrent l'arrière du camion déclara avoir pensé, en les voyant, qu'il s'agissait d'un chargement de mannequins. Vous savez, ces bonnes femmes en plastique qu'on met habillées dans les vitrines. On en comptait une bonne demi-douzaine éparpillées sur la neige, derrière le haillon détruit du camion. L'une d'elles paraissait même avoir été coincée au milieu des planches si solidement attachées que les emballages ne s'étaient pas rompus sous l'impact et lui écrasaient les jambes, laissant le buste pendre à l'extérieur de la plateforme. Mais pourquoi aurait-on passé des manteaux à des mannequins? S'était-il demandé. Et pourquoi toutes ces éclaboussures rouges sur la neige tout autour? Il fallut une demi-heure à la police de la route pour se rendre sur les lieux. Lorsqu'elle arriva finalement sur place, elle dut commencer par disposer une signalisation et s'occuper de l'embouteillage d'un kilomètre qui s'était créé sur les deux voies à hauteur de l'accident. Les conducteurs, qui roulaient déjà prudemment du fait de l'état de la route, ralentissaient encore afin de regarder à loisir, à travers le rail de sécurité déchiqueté, le cadavre du camion qui, au fond du ravin, gisait au milieu d'autres cadavres. Le premier policier, n'arrivant pas à comprendre ce que lui criaient les chauffeurs de poids lourds, et voyant les formes désarticulées éparpillées autour de l'épave, remonta la pente et appela aussitôt le poste des carabiniers à Tarvisio. Appel auquel il fut immédiatement répondu, si bien que l'embouteillage ne tarda pas à s'aggraver avec l'arrivée de deux voitures de patrouille transportant six hommes en uniforme noir. Ils laissèrent leur véhicule sur l'accotement et entreprirent la laborieuse descente vers le camion. Lorsqu'ils constatèrent que la femme coincée sous les planches était encore vivante, les carabiniers oublièrent complètement les problèmes de circulation, si tant est qu'ils s'y soient intéressés. Il s'ensuivit une scène tellement confuse qu'elle aurait été comique si elle n'avait pas été par ailleurs aussi bizarre. Les planches qui écrasaient les jambes de la femme faisaient toute la longueur du camion et s'empilaient sur au moins 2 mètres. Une grue les aurait facilement déplacées, mais il était impossible d'en faire descendre une dans le ravin. C'était également faisable à la main, mais il aurait fallu pour cela grimper dessus et ajouter au poids qu'elle représentait. Le plus jeune des policiers, il s'appelait Monelli, s'accroupit, frissonnant dans le froid vif de la nuit alpine qui tombait. Il avait entouré la partie visible du corps de la femme avec sa parka doublée de duvet. Elle avait les jambes complètement prises, jusqu'à hauteur des cuisses, sous une pile de bois compact, comme si elle posait pour un Magritte particulièrement baroque. Il constata qu'elle était jeune et blonde, mais également qu'elle était devenue nettement plus pâle depuis son arrivée auprès d'elle. Elle gisait sur le côté, la joue appuyée contre le plancher cannelé. Elle avait les yeux fermés, mais paraissait respirer. Il entendit derrière lui le bruit violent d'un objet lourd tombant sur la plateforme. Les 5 autres carabiniers s'étaient glissés le long de l'empilement de planches et avaient entrepris, poussant ici, tirant là, de dégager les lots un par un en commençant par le haut. Chaque fois qu'ils en jetaient un en bas, ils redescendaient de la pile pour aller le lancer hors du camion, passant par-dessus Monelli et la jeune femme. Et à chaque fois, il constatait que la flaque de sang qui coulait d'entre les planches s'était encore rapprochée des genoux de Monelli. Il n'en continuait pas moins à batailler avec les pesants colis de planches, s'y arrachant la peau des mains, frénétique dans leur désir de dégager la jeune fille blonde. Et même après que Monelli eut recouvert le corps de sa veste et se fut redressé, ils continuèrent à attraper les longs paquets pour les lancer dans l'obscurité grandissante. Il fallut que leur sergent aille leur mettre la main sur l'épaule et leur dise de s'arrêter pour qu'ils retrouvent leur calme et reprennent leurs investigations sur la scène du drame. Le temps de les achever et d'appeler Tarvisio pour qu'on envoie des ambulances prendre les cadavres, la paralysie de la circulation était devenue complète, sous la neige qui n'avait cessé de tomber jusqu'à la frontière autrichienne. On ne pouvait rien faire de plus jusqu'au lendemain. Néanmoins, les carabiniers prirent la précaution de poster 2 des leurs, ne sachant que trop la fascination qu'exerce sur beaucoup de gens le lieu d'une telle tragédie, et redoutant la destruction ou le vol de preuves, au cas où l'épave ne serait pas gardée pendant la nuit. Comme il arrive si souvent à cette époque de l'année, c'est une aube aux doigts de rose qui se leva le lendemain, et à 10 heures, la neige n'était plus qu'un souvenir. L'épave du poids lourd et les profonds sillons qu'il avait laissés derrière lui, en revanche, n'avaient pas bougé. On vida le chargement pendant la journée et on le disposa en pile basse dans une zone à l'écart de l'épave. Pendant que les carabiniers s'échinaient, râlant contre le poids, les échardes et la boue dans laquelle leurs bottes s'enfonçaient, une équipe de la police scientifique passa la cabine du camion au peigne fin, saupoudrant les surfaces planes et glissant tous les papiers et objets qu'ils trouvaient.